Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever.
Les vacances obligent, ce n'est pas Samuel Cujas qu'on retrouve dans Judaïka Sport ce matin, mais bien vous, mon cher Blaise, et avec bonheur. Et on va parler, bien sûr, de quelque chose qui est fort occulté ces temps-ci. On a cru qu'on allait entendre parler des Jeux Olympiques H24. Évidemment, les élections anticipées chez nos amis français se sont invitées. Et donc, ça passe un petit peu à la trappe pour le moment, mais c'est le 16 juillet, je pense, que commencent les Jeux Olympiques. Et qui dit Jeux Olympiques dit équipe israélienne. Et les équipes olympiques et paralympiques israéliennes bénéficieront d'une sécurité absolument sans précédent aux Jeux Olympiques de Paris.
Oui, effectivement, Didier, ils pourront donc se concentrer uniquement sur le sport, apportant joie et fierté à Israël. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Culture, des Sports, Miki Zohar. Il s'exprimait lors d'une réception organisée par le président Yitzhak Herzog pour les deux équipes ainsi que pour les responsables olympique israélien à la résidence du président. Les agences de sécurité françaises sont également conscientes des problèmes de sécurité et seront en état d'alerte, selon Miki Zohar. Israël, qui est particulièrement attentif à la sécurité lors de tels événements depuis l'assassinat de 11 athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Sur leur chemin vers Paris, certaines des personnes présentes au jardin du président passeront par Munich pour déposer une gerbe au monument érigé à la mémoire des athlètes israéliens assassinés, des veuves de ces athlètes, Anki Spitzer et Ilana Romano, qui ont joué un rôle de premier plan dans les efforts visant à perpétuer leur souvenir, à poursuivre les auteurs de ces crimes et à obtenir des compensations pour les familles endeuillées. Ont assisté à la réception du président. Était également présent l'ambassadeur de France, Frédéric Journès, d'ancien médaillé olympique, et Uri Afek, 91 ans, figure majeure du sport israélien, qui a accompagné toutes les équipes olympiques israéliennes depuis 1952, date de la première participation d'Israël aux Jeux Olympiques d'Helsinki.
Eh bien, voilà qui promet d'être agréable et qui s'y peut faire que leur sport et sans autre souci, peut-être arriveront-ils à faire de belles performances. On passe maintenant outre-Atlantique et on va parler basket. Denis Avdija a été échangé le soir de la draft NBA entre les Washington Wizards et les Portland Trail Blazers.
Oui, cet Israélien de 23 ans qui a été échangé contre Malcolm Brogdon, le 14e choix de la draft Carlon Carrington et le 2e choix le plus favorable de Portland, à savoir le choix du premier tour 2029 et deux des choix du deuxième tour 2028 et 2030. Denis Avdija, qui entame sa 5e saison dans la plus grande ligue du monde, la NBA, avait joué les 4 premières années de sa carrière dans le district de Columbia après que les Wizards l'aient sélectionné au 9e rang de la draft 2020.
Et maintenant, on va parler foot, mais pas encore de l'Euro 2024, ça on y viendra par la suite, mais les clubs de foot israéliens qui participeront aux compétitions européennes lors de la saison prochaine ont découvert ce week-end les équipes qu'ils affronteront dans leurs tournois de qualification respectifs.
Le Maccabi Tel Aviv, le Maccabi Haïfa, le Maccabi Petah Tikva et l'Hapoël Be'er Sheva tenteront tous de se frayer un chemin à travers les tours de qualification afin de décrocher leur billet pour la toute nouvelle phase de championnat de la Ligue des Champions, de l'UEFA, de l'Europa League et de l'Europa Conference League. La nouvelle phase de championnat comprend 36 équipes pour chaque compétition et les équipes seront opposées à 8 adversaires différents avec 4 matchs à domicile et 4 à l'extérieur pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa, tandis que les équipes de la Ligue de Conférence, l'Europa Conference League, joueront contre 6 adversaires différents.
Eh bien, j'espère qu'ils n'auront pas trop de difficultés à sortir de ces poules. Et je le disais, on va parler maintenant de l'Euro 2024 qui bat son plein, enfin qui est en sa phase finale, on va dire, puisque avait lieu ce week-end les quarts de finale et j'ai presque envie de dire 2-2. Il y a eu 2 matchs extrêmement agréables à suivre et 2 matchs soporifiques à souhait.
Effectivement, ces quarts de finale ont donc commencé vendredi à 18h avec le match entre l'Espagne et l'Allemagne qui s'est joué jusqu'aux prolongations et un but à la 119e minute sur 120 de la part des Espagnols qui se sont donc imposés 2 buts à 1 et qui joueront donc la demi-finale de l'Euro malgré plusieurs joueurs suspendus. Les Espagnols tenteront de se frayer un chemin jusqu'en finale, les Allemands qui étaient les organisateurs de ce championnat d'Europe, qui sont toujours l'organisateur d'ailleurs de ce championnat d'Europe, eux s'inclinent et sortent par la petite porte malgré une compétition de très bonne facture, et alors que ça ne partait pas très bien et que l'Allemagne était en crise avant cet Euro. Eh bien, défaite 2-1 en quart de finale avec les honneurs. Le match du soir à 21h, lui, était beaucoup moins impressionnant, ça on peut le dire. Le match qui opposait le Portugal à la France s'est terminé donc au tir au but avec une victoire française. Les Français sont donc venus à bout des Portugais. Toujours pas de but dans le jeu pour l'équipe de France de Didier Deschamps. La France qui a résisté à des Portugais un peu plus inspirés mais pas meilleurs à la conclusion après une première période très soporifique. La rencontre a gagné en intérêt en seconde mi-temps. Les deux équipes auraient pu prendre l'avantage, mais elles ont péché dans la finition. Ça s'est donc départagé aux prolongations et puis au pénalty. Le Portugal s'est montré plus dangereux et inspiré, mais la France, eh bien, comme souvent, termine cette rencontre par une victoire. Le pénalty manqué par João Félix, le joueur du Portugal, eh bien, élimine le Portugal d'une ancienne connaissance à nous, cher Belge Roberto Martinez, qui est aujourd'hui assis sur le banc du Portugal. Le Portugal qui perd également la légende de son sport, de son histoire, Cristiano Ronaldo, qui jouait son dernier championnat d'Europe de sa carrière, de sa longue et belle carrière. Il jouait donc son dernier championnat d'Europe et zéro but pour lui lors de cet Euro 2024. Le Portugal qui passe donc à la trappe et donc nous aurons un match entre l'Espagne et la France qui se jouera soit demain ou mercredi. J'ai un trou de mémoire, je vais vérifier ça tout de suite et je vous reviens. Didier, pendant ce temps-là, eh bien, on lance les deux autres matchs.
Ah bah oui, bien sûr.
Ce sera mardi, Espagne-France.
Mardi, c'est-à-dire demain, sur le coup de 21h, c'est bien ça ?
Sous le coup de 21h, exactement.
Bien sûr. Alors, la deuxième demi-finale opposera les équipes qui se sont affrontées lors des deux derniers quarts de finale. C'était samedi. Et là, pareil, un match hyper intéressant et un match mi-figue, mi-raisin, on dira, avec une équipe malade qui n'est pas en voie de guérison pour le moment, malgré qu'elle se soit qualifiée. Je veux parler de l'Angleterre, qui était le grandissime favori.
Oui, l'Angleterre qui, avec son 11 de base, qui est sûrement l'une des plus belles équipes de ce championnat d'Europe, mais eh bien comme un peu comme les l'équipe de France, eh bien cette Angleterre ne séduit pas du tout et elle était limite pas favorite pour son affrontement contre la Suisse, victoire au penalty après prolongation donc pour les Anglais après un score de 1-1 lors des 90 minutes qui se sont donc déroulées. Victoire donc des Anglais au pénalty, un premier acte avec très peu d'opportunités de part et d'autre, et les Suisses qui tentaient de passer par l'axe mais qui ne sont pas parvenus à inquiéter Jordan Pickford, le gardien des Free Lions comme on les appelle. Le rythme s'est accéléré ensuite après le but marqué par la Suisse avec via Mbolo, et puis enfin eh bien un but de la part de l'Angleterre qui voit donc les Anglais se qualifier pour le match qui se jouera donc mercredi, un match qui les verront affronter les Pays-Bas, nos voisins hollandais qui eux eh bien ont réussi à battre la Turquie 2-1. Ils ont été malmenés les Hollandais, mais ils sont parvenus à renverser la vapeur. Les Pays-Bas qui ont démarré la rencontre pied au plancher, bien loin d'être paralysés par l'enjeu. Ils ont rapidement pris d'assaut le rectangle adverse sans parvenir à inquiéter le portier portée turque, sûrement un manque de justesse technique dans les zones de décision. Les Néerlandais qui ensuite laissaient leurs adversaires prendre un peu plus part au jeu et s'installer et multiplier les phases arrêtées. Et c'est justement à la suite d'un corner, encore un tiré par le jeune Arda Güler, le joueur du Real Madrid, qui adresse un centre parfait, sa troisième passe décisive sur corner du tournoi, et un but de la tête d'Akaydin qui au second poteau, qui voit à la 35e minute la Turquie passer devant. Et puis après, festival de la part du gardien hollandais Verbruggen qui mériterait sûrement sa statue aujourd'hui chez nos amis hollandais. Et puis enfin, c'est à partir de la 70e minute que les Pays-Bas sont revenus dans le match via De Vrij, un joli coup de tête. Ensuite, 6 minutes plus tard, c'est Cody Gakpo qui permet aux Pays-Bas de s'imposer 2-1, un but qui a finalement été accordé au défenseur turc Muldur. Et donc voilà, ce sera mercredi également à 21h la demi-finale Pays-Bas-Angleterre. Donc on récapitule: mardi Espagne-France 21h, mercredi Pays-Bas-Angleterre 21h également, pour voir eh bien qui s'affrontera dimanche à 21h également pour cette finale de l'Euro 2024.
C'est vrai, et finalement, pas de surprise, malgré qu'il y ait des équipes qui n'aient pas démérité. Je vous avoue que moi, j'étais sous le charme du football turc. J'étais sous le charme du football slovaque, que les Belges ont rencontré en phase de poule. Et puis, c'est vrai, c'était un euro d'adieu pour Cristiano Ronaldo, vous l'avez dit. Également pour Luka Modric, des icônes dans leurs pays respectifs. Sans parler de Jan Vertonghen, le diable rouge, qui a décidé, à la suite de l'élimination de la Belgique, de mettre un terme à sa carrière internationale. Malgré qu'il ait signé, je pense, encore pour un an, voire deux, à Anderlecht, si je ne me trompe pas. Mais ça, on verra.
On verra ça un peu plus tard dans l'été.
Absolument. Merci beaucoup, Blaise.